France Inter.
Et bonjour à tous, Richard Ferrand, Éric Dupond-Moretti, Alexis Kohler, pour ne citer que, toutes ces personnalités ont été mises en cause dans des affaires qui ont été initiées ou relancées par l'association Anticor. Pendant plus de 20 ans, elle a fait trembler le milieu politique, mais depuis la perte de son agrément, elle a vu sa capacité d'agir considérablement réduite. Bonjour Maxime Tellier.
Bonjour.
Avec vous, on va donc essayer de comprendre ce qui s'est passé, et puis nous recevrons Étienne Jacob, bonjour également.
Bonjour.
Alors vous avez infiltré plusieurs mouvements sectaires, des connus comme les Raéliens ou la Scientologie, mais aussi des moins médiatisés comme la mouvance d'un chiropracteur américain qu'on a pu voir au Grand Rex à Paris et qui affirme guérir les cancers et faire marcher les paralytiques.
Secret d'info, Jacques Monin sur France Inter.
C'est de l'intérieur qu'est venue la bataille qui coûte très cher aujourd'hui à l'association anticorruption Anticor. Elle vient de perdre son agrément pour agir en justice. Deux dissidents contestaient le caractère.
Voilà ce qu'on pouvait entendre le 23 juin dernier sur France Inter. Le tribunal administratif de Paris vient d'annuler l'agrément qui donnait la possibilité à Anticor de poursuivre des responsables politiques dans le cadre d'affaires de corruption. C'est un coup dur porté à l'association qui était aux avant-postes de ce combat depuis plus de 20 ans. On va donc essayer de comprendre comment on en est arrivé là, Maxime Tellier. Est-ce qu'il s'agit d'un règlement de compte politique ou est-ce que l'association a une part de responsabilité dans ce qui lui arrive? Mais avant de répondre à cette question, bien, il faut peut-être d'abord tout simplement rappeler ce qu'est Anticor.
Oui, alors l'histoire d'Anticor, elle commence en 2002. L'association est créée par deux personnes, dont Séverine Tessier, une conseillère municipale à Clichy, dans les Hauts-de-Seine. À l'époque, elle lance Anticor parce qu'elle constate que les citoyens ont de moins en moins confiance en ceux qui les gouvernent.
Lorsqu'il y a eu l'élection présidentielle de 2002, marquée par l'arrivée du Front National au second tour de l'élection présidentielle en face de Jacques Chirac, j'étais effarée. Et j'ai contacté quelques collègues qui venaient d'être élus également pour essayer de donner l'exemple et montrer que non, les politiques ne sont pas tous corrompus. Essayer de réhabiliter la politique face au discrédit qui marquait la vie politique à ce moment-là.
Et pour réhabiliter les politiques, elle va faire quoi?
Eh bien, elle convainc des élus de la rejoindre, mais pas seulement. Elle va aussi convaincre une figure emblématique du monde judiciaire, le juge d'instruction Éric Alphen. Il a alors acquis une certaine célébrité pour avoir enquêté sur l'affaire des HLM de Paris.
Je suis allée voir Éric Alphen dans une librairie où il dédicaçait à ce moment ce livre « 7 ans de solitude ». Et je lui ai proposé de faire collectif, justement. Et tout de suite, il a accepté cette proposition. Nous nous sommes retrouvés, nous avons signé un texte. Le texte fondateur de l'association qui s'appelait « L'appel à la résistance à la corruption ». Ce texte a été publié dans un grand journal, Libération. Et nous avions laissé un point de contact, une adresse mail, suite auquel nous avons eu beaucoup de messages d'encouragement et aussi de mobilisation des élus.
Et ces élus, concrètement, Maxime, ils vont faire quoi au sein d'Anticor?
Alors au début, leur principale action consiste à faire de la sensibilisation. Ils organisent des réunions avec des citoyens, ils écrivent des chartes qu'ils soumettent aux candidats aux élections. En 2004, Anticor va ensuite lancer des prix éthiques pour distinguer les personnalités qui agissent en faveur de la probité. L'association va aussi se développer localement avec des groupes qui se créent dans les départements de France.
Et une affaire judiciaire en particulier va ensuite la faire connaître au grand public.
Oui, en 2011, Anticor dépose sa première plainte en justice dans une affaire politique emblématique qui met en cause un ancien président de la République. C'est effectivement un tournant stratégique dont nous parle Jean-Christophe Picard, qui est membre fondateur de l'association et qui l'a présidé entre 2015 et 2020.
Ce qui est arrivé d'Anticor, c'est l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris en 2011. Et là, Anticor a été mis en lumière, puisqu'Anticor a été la seule partie civile, entre guillemets, pendant le procès, puisque la ville de Paris n'était pas partie civile. Donc, les seuls qui ont fait entendre la voix des citoyens, c'était Anticor. Et on a obtenu, pour la première fois sous la Ve République, la condamnation d'un ancien président de la République.
et en l'occurrence Jacques Chirac.
Oui, qui est condamné alors à 2 ans de prison avec sursis pour détournement de fonds publics, abus de confiance et prise illégale d'intérêt. Jacques Chirac, qui était le président du RPR alors que plusieurs salariés de ce parti étaient payés par la mairie de Paris.
Et une loi va bientôt permettre à Anticor de monter encore en puissance.
Oui, une loi votée en 2013 qui va, elle, créer un nouvel outil juridique très puissant pour les associations anticorruption. On appelle ça un agrément qui est délivré par le gouvernement. Et pour Raphaël Morel, qui préside l'Observatoire de l'éthique publique, cela a changé la vie des membres de l'association.
La seule chose qui leur manquait, c'était un outil qui leur permettait finalement de passer outre un éventuel classement sans suite qui serait politique. Et donc, les poursuites qui ne seraient pas engagées par éventuellement un procureur qui aurait subi des pressions quant à sa carrière, etc., eh bien, pouvaient tout de même faire l'objet d'une enquête par un juge indépendant grâce à cet agrément anticorruption. Alors, il y a quand même très peu d'associations qui sont agréées pour faire ça. Il y en avait 3, à savoir Anticor, Sherpa et Transparency France.
Et du coup, ça va changer beaucoup de choses.
Oui, parce qu'à partir de là, Anticor va pouvoir se constituer partie civile de manière automatique. Il va devenir une sorte de procureur bis. Et ce que l'association a fait une fois dans l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris, elle va pouvoir le faire quasiment à chaque fois. Et pour Jean-Christophe Picard, c'est loin d'être un détail.
Alors ça va changer beaucoup de choses, puisqu'avant on se battait parfois pendant des années pour être recevable. Dans l'affaire des sondages de l'Élysée, Anticor a mis 3 ans pour être recevable. On a dû aller en cour de cassation pour faire annuler le refus du parquet d'ouvrir une enquête. Vous imaginez, 3 ans, voilà. Donc évidemment, l'agrément, ça permet à Anticor d'être recevable dans une certaine catégorie d'affaires, notamment tout ce qui est lié à la corruption. Donc ça va nous faciliter la vie, évidemment. Et donc on va pouvoir moins se battre sur les procédures et plus se battre sur le fond.
Et c'est vrai qu'en faisant ça, Anticor va avoir des résultats.
Oui, Anticor enchaîne les affaires médiatiques et spectaculaires entre l'arrivée de Jean-Christophe Picard en 2015 et son départ en 2020. Le nombre de procédures va exploser.
Quand je suis arrivé, il y avait à peu près 1100 adhérents et on était engagé dans 5 procédures. Quand je suis parti en 2020, on était à, je crois, 5500 adhérents et on était engagé dans plus de 100 procédures. Voilà. L'agrément, évidemment, a tout changé. Ça nous a permis d'être plus crédibles quand on saisissait le procureur. Le procureur, il se dit, si on classe, de toute façon, Anticor pourra saisir un juge d'instruction. Donc, nos plaintes et nos signalements étaient examinés avec beaucoup d'attention.
Et la conséquence, c'est que Anticor va se trouver au cœur d'affaires qui font beaucoup de bruit.
Oui, des affaires qui visent le cœur du pouvoir et des très proches d'Emmanuel Macron. On peut citer par exemple la plainte contre Richard Ferrand, fin 2017, qui entraîne sa mise en examen pour prise illégale d'intérêt. On lui reprochait d'avoir acheté un local au nom de sa femme pour le louer aux mutuelles de Bretagne, dont il était le directeur général.
Ouais, une enquête qui sera d'ailleurs classée pour prescription.
Oui, mais il n'y a pas que celle-là. En 2018, Anticor dépose aussi une plainte contre Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, pour prise illégale d'intérêts et trafic d'influence. Lui est soupçonné d'avoir favorisé le géant maritime MSC, avec qui il a des liens familiaux et chez qui il a travaillé brièvement. Lorsque l'affaire est classée sans suite, Anticor se constitue partie civile et Alexis Kohler est finalement mis en examen.
Et tout ça commence à irriter au sommet du pouvoir.
C'est en tout cas ce que remarque encore l'ancien président d'Anticor, Jean-Christophe Picard.
Là, on s'attaque à des personnes, aux personnes les plus puissantes de la République. Alexis Kohler, c'est le numéro 2 de l'État, juste en dessous d'Emmanuel Macron. Ferrand, c'était le président de l'Assemblée nationale. On a aussi également porté plainte dans l'affaire Alstom, donc dans des affaires extrêmement importantes, qui sont des scandales d'État. Donc évidemment, ça dérange.
Ouais, ça dérange. Sauf que cette machine très efficace, on vient de le voir, mise en place au fil des années par Anticor, eh bien, elle va bientôt se gripper.
France Inter, Secret d'info, Jacques Monin.
Alors après avoir vu comment Anticor est monté en puissance depuis sa création en 2002, Maxime Tellier, on va maintenant voir, je le disais, qu'à partir de 2020, en fait, la machine va connaître quelques ratés.
Oui, et c'est d'abord de l'intérieur de l'association que les problèmes vont arriver. Certains commencent à émettre des critiques sur le fonctionnement même d'Anticor.
C'est-à-dire ?
Eh bien, des personnes qui siègent au conseil d'administration critiquent la direction de l'association. Et parmi ces contestataires, il y a notamment Françoise Vercher. Ce n'est pas n'importe qui. Elle a reçu le prix éthique d'Anticor en 2017 pour son combat juridique contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes. Et elle nous raconte comment elle a pris ses distances avec la direction actuelle.
Nous avons tous été élus sur une même liste en 2018, dirigée donc par Jean-Christophe Picard. Dans les deux ans qui ont suivi, nous avons été un certain nombre à constater des dysfonctionnements internes, notamment une tendance du bureau à décider sans le conseil d'administration et un manque de transparence. Et nous pensions qu'il fallait clarifier les règles de fonctionnement interne. Et c'est le départ inattendu de Jean-Christophe Picard en février 2020 pour se présenter aux élections municipales qui a cristallisé les divergences.
Et pourquoi, Maxime, en quoi le départ de Jean-Christophe Picard a posé un problème ?
Eh bien, une partie des administrateurs lui reproche de mélanger engagement politique et associatif. Il considère que sa candidature, en l'occurrence sur une liste écologiste à Nice, risque de nuire à l'image d'indépendance et de pluralisme de l'association. Parce que Jean-Christophe Picard a annoncé sa démission un mois seulement avant le premier tour de l'élection municipale.
Ouais, et du coup, la nouvelle présidente va être élue dans un climat très tendu.
Oui, elle s'appelle Élise Van Beneden, elle est avocate, elle a 33 ans, elle connaît bien Anticor, dont elle est membre depuis 10 ans, mais elle est élue présidente d'un conseil d'administration qui est effectivement très divisé.
À cause des conditions dans lesquelles Jean-Christophe Picard est parti ?
Oui, une partie des administrateurs souhaite réformer les statuts pour empêcher qu'une affaire Picard se reproduise, empêcher les dirigeants de l'association d'être candidats ou élus en politique. Mais une petite majorité, dont fait partie Élise Van Beneden, ne veut pas de cette réforme.
L'ADN d'Anticor, c'est de lutter contre le tous pourri. Et il y avait un paradoxe énorme pour moi à d'un côté lutter contre le tous pourri et de l'autre côté dire qu'on devait exclure tous les élus, ce qui signifie à mon sens qu'aucun élu ne pouvait avoir la confiance de l'association. Donc moi, c'était une position trop paradoxale et c'était aussi le signe d'une dérive qui est justement en fait la dérive que les fondateurs d'Anticor ont combattue.
Et donc, il y a alors clairement deux clans au sein de l'association.
Exactement. Le conseil d'administration est divisé avec 11 personnes, dont la présidente d'un côté, contre 10 de l'autre.
Et ça se règle comment ?
Pour débloquer la situation, des élections anticipées sont organisées. Les adhérents sont invités à trancher entre les deux lignes. Et c'est le camp d'Élise Van Beneden qui gagne par 568 voix contre 345.
Ouais, sauf que le climat va s'envenimer.
Oui, les perdants ne l'entendent pas de cette oreille. À la fin de l'année 2020, ils vont contester ce résultat devant la justice, comme l'explique encore l'actuelle présidente d'Anticor.
Ces administrateurs qui avaient voulu cette réforme des statuts, ils assignent l'association en disant qu'on n'a pas respecté les statuts et qu'on ne pouvait pas révoquer le conseil d'administration et organiser une nouvelle élection. Et en fait, ils envoient leur assignation à un député qui s'appelle Bruno Ketel, qui était un député LREM qui n'a pas été réélu. Il y a eu un réseau qui s'est formé pour descendre Anticor et ces gens-là sont parfaitement en lien.
Ah donc elle pense qu'une partie du conseil d'administration, enfin son opposition, aurait cherché des soutiens dans la Macronie pour la déstabiliser ?
Oui, c'est en tout cas ce qu'elle pense, elle. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un désaccord profond au sein de l'association sur plusieurs sujets, dont la gouvernance et la transparence.
Et le financement aussi.
Oui, ça c'est aussi un gros point d'achoppement. Des membres du conseil d'administration reprochent au bureau de leur cacher l'identité d'un donateur, qui se trouve être le plus important de l'association par les montants qu'il verse, un peu plus de 130 000 euros en tout sur 4 années. Lorsqu'elle apprend son existence, Françoise Vercher demande des comptes aux dirigeants.
Nous sommes un certain nombre, et moi la première, à demander quelle est l'identité de ce donateur. Et c'est là que la présidente, et un petit noyau, disons, qui connaît déjà l'identité du donateur, refuse de la donner, en arguant du fameux RGPD, le règlement sur la protection des données personnelles, mais il n'était pas question pour nous de mettre sur la place publique l'identité du donateur. En revanche, il nous paraissait normal, en tant qu'administrateur, de la connaître. Et donc, il y a eu un refus permanent et répété, réitéré plusieurs fois.
Et donc, ils vont finir par le connaître, le nom de ce mystérieux donateur ?
Oui, certains l'apprendront de manière informelle par des membres du bureau, mais d'autres bien plus tard, en mars 2021, par des journalistes, notamment du Point et du JDD.
Et c'est qui ce donateur alors ?
Il s'appelle Hervé Vinciguerra, c'est un quasi-milliardaire français qui a fait fortune dans les années 2000 en revendant son entreprise de logiciels pour traders et qui affirme vouloir investir dans la lutte contre la corruption.
Et c'est quoi le problème ?
Eh bien, le premier problème, c'est qu'il est marqué politiquement. Il a été proche d'Arnaud Montebourg, qu'il était prêt à soutenir financièrement pour une éventuelle campagne présidentielle. Il a investi 150 000 euros dans son entreprise de miel et dans son école d'apiculteurs. Et le deuxième problème, c'est qu'Hervé Vinciguerra optimise sa fortune dans des pays qu'on peut considérer comme des paradis fiscaux, avec des holdings au Luxembourg et à Singapour, notamment. Et ça, au sein d'Anticor, ça en choque beaucoup, dont notamment Françoise Verchères.
Moi, je ne peux pas comprendre qu'une association qui lutte contre les paradis fiscaux accepte de l'argent venant de paradis fiscaux. La réponse de la présidente a été la suivante. Notre plaidoyer ne s'adresse pas aux particuliers, mais aux États. Autrement dit, tant que les États n'ont pas mis en place une législation, pourquoi ne pas accepter l'argent ? Ce que je trouve personnellement extrêmement léger comme réponse.
Et le donateur, lui, Maxime, il répond quoi à ça ?
Lui considère que l'origine de son argent ne pose aucun problème. Hervé Vinciguerra s'est toujours tu jusqu'ici sur cette affaire, mais il a accepté de s'exprimer pour la première fois à notre micro.
D'abord, je tiens à dire que ni le Luxembourg ni Singapour ne sont considérés comme des paradis fiscaux. Peut-être des paradis fiscaux pour le grand public, comme on dit, qui ne connaît pas tellement la finance internationale. Mais je peux vous dire que ce ne sont pas des paradis fiscaux, premièrement. Deuxièmement, il ne s'agit pas d'optimisation fiscale, parce qu'il n'y en a pas eu. Et puis troisièmement, en tous les cas, je ne vois pas en quoi le fait d'avoir une holding au Luxembourg ou une holding à Singapour serait antinomique avec la notion de lutte anticorruption.
Ouais, donc ça, c'est pour sa réponse sur les paradis fiscaux, chacun jugera. Maintenant, il y a un autre reproche, plus surprenant d'ailleurs, qu'on lui a aussi fait.
Oui, certains le soupçonnent aussi d'avoir monnayé son soutien à Anticor en échange de plaintes qui cibleraient notamment des proches d'Emmanuel Macron. C'est ce qu'on appelle des dons fléchés. Ce soupçon a été relayé dans Le Point notamment. Mais sur ce sujet aussi, Hervé Vinciguerra est catégorique.
Il n'y a pas de dons fléchés, c'est une invention des journalistes, quoi. En fait, des dons fléchés, ça voudrait dire qu'on corrompt la présidente d'une association anticorruption. On voit bien que ça n'a pas de sens. Et puis, il n'y a pas de dons fléchés, quoi. Je ne sais pas d'où sort cette histoire de dons fléchés. Je n'ai pas bien compris. En tous les cas, je ne suis pas concerné, voilà. C'était intéressé par la lutte anticorruption, voilà, point.
Et je précise qu'Hervé Vinciguerra a arrêté de donner après 2021. Et depuis, le montant des dons a été plafonné chez Anticor.
Oui, sauf qu'en attendant, cette affaire a laissé des traces.
Oui, parce qu'au moment de ces révélations, on arrive à l'expiration de l'agrément donné à Anticor. Or, toutes ces polémiques ont terni la réputation de l'association.
Ouais, terni peut-être, Maxime, mais en avril 2021, Jean Castex l'a quand même renouvelé cet agrément.
Oui, mais il signe un arrêté dont la formulation est assez étrange.
C'est-à-dire ?
Eh bien, c'est un arrêté sous condition qui renouvelle l'agrément, mais qui reprend en même temps à son compte les critiques des dissidents d'Anticor. Donc, qui dit en gros, vous êtes en règle, tout en disant, vous n'êtes pas en règle. Et cela, c'est inédit pour un tel document administratif, relève l'avocat d'Anticor, Vincent Brengart.
D'un côté, l'administration va donner l'agrément à Anticor, mais en fait, lorsqu'on lit l'arrêté, c'est un oui mais, c'est-à-dire... On vous donne l'agrément, mais en même temps, en termes de transparence, il faut pouvoir évoluer, faire évoluer telle ou telle chose. Et en fait, je pense vraiment que c'était un coup de génie de la part de l'administration. Parce que d'un côté, on donne l'agrément, donc on donne l'impression finalement que on ne freine pas l'association dans ses combats. Et en fait, de l'autre, on établit en fait tel un cheval de Troie, une possibilité de contestation de cet agrément qui va être une contestation formelle.
Et effectivement, cet arrêté, il va être contesté en justice, mais la fronde va venir de l'intérieur.
Oui, cette fois-ci, ce sont deux adhérents ordinaires, si on peut dire, qui vont sauter sur l'occasion pour demander l'annulation de cet agrément, estimant que la gestion d'anticorps n'était pas transparente.
Et c'est qui, ces adhérents ?
Ils s'appellent Yves Sassio, d'un côté, et Claude Bigel, de l'autre. Ce sont deux retraités. Le premier est un ancien caméraman que je n'ai jamais réussi à joindre. Il est décrit comme un complotiste par certains dans l'association. Le second est un ancien d'EDF qui se présente comme expert comptable et qui n'a pas souhaité donner d'interview.
Et entre eux et la présidente d'Anticorps, les relations vont, et c'est peu de le dire, se dégrader.
Effectivement, on mesure la tension qui règne en écoutant notamment ce message que Claude Bigel a laissé sur le répondeur de la présidente Élise Van Beneden. Voilà ce qu'il lui dit précisément.
Je vais sûrement envoyer à la Haute Cour de justice de ce qui se passe réellement à Anticorps. Je vais également demander un journaliste du Figaro et lui dire exactement ce qui se passe, parce que là, faut pas prendre les gens que pour des pigeons. De toute façon, je vous fais tout annuler. Et moi, de toute façon, quand je fais annuler, vous saurez vraiment qui je suis exactement. Voilà, il y en a ras-le-bol.
Et la tension monte encore d'un cran lorsque Claude Bigel est exclu de l'association. On l'entend dans ce court message également laissé sur le portable de la présidente.
Oui, Élise, votre Gugus m'a éjecté du comité d'éthique d'Anticorps, donc je peux vous assurer que vous allez perdre votre agrément.
Ouais, effectivement, c'est très explicite. Et c'est ce qui va se passer, d'ailleurs, la perte de l'agrément.
Oui, avec un ténor du barreau, Frédéric Thirier, qui se trouve être l'ancien avocat de Richard Ferrand, dont on a déjà parlé. Les deux adhérents obtiennent gain de cause. Le 23 juin 2023, le tribunal administratif de Paris annule l'agrément d'Anticorps.
Et il se base sur quoi pour annuler cet agrément ?
Eh bien, on en revient à cet arrêté bizarre pris par Jean Castex, qui accordait l'agrément, tout en posant des conditions. Le tribunal a considéré que cet arrêté n'était pas conforme, puisqu'il était ambigu.
Mais Jean Castex, quand il a pris cet arrêté, il savait que ça finirait comme ça. Il l'a fait sciemment, en sachant qu'il donnait des arguments au tribunal pour ensuite casser son agrément.
C'est ce que soutient Anticorps aujourd'hui. Jean Castex, lui, n'a pas répondu à mes demandes d'interview, mais Raphaël Morel, le président de l'Observatoire de l'éthique publique, ne croit pas à cette théorie. Lui estime que le Premier ministre n'avait pas le choix.
À mon sens, Jean Castex était coincé. C'est-à-dire qu'il y avait une vraie ferveur populaire qui disait « mais on ne peut pas bâillonner Anticorps, donc il faut absolument y renouveler son agrément ». Et puis d'un autre côté, il y avait tout un tas d'opposants qui disaient « on ne peut pas agréer une association qui ne respecte pas les critères ». Et Matignon n'avait pas le choix. Et donc Jean Castex a trouvé une porte de sortie formelle à un problème de fond.
Et cette porte de sortie, ça a donc été une décision mi-chèvre, mi-chou, on l'a vu, bancale donc. Bon, et ensuite, Maxime, qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, en novembre, quelques mois plus tard, la Cour administrative d'appel a confirmé l'annulation de l'agrément pour les mêmes questions de forme. L'association a donc déposé un pourvoi devant le Conseil d'État et elle a fait une nouvelle demande d'agrément que le gouvernement laisse traîner et qui est toujours en cours d'instruction par les services du Premier ministre.
Donc, pour l'instant, on est dans une impasse.
C'est ça. Depuis 10 mois, Anticorps ne peut plus constituer partie civile, en tout cas de façon automatique, dans des affaires de corruption.
Et quelles conséquences cette absence d'agrément a concrètement aujourd'hui sur les enquêtes qui sont en cours, Maxime ?
Alors, pour certains dossiers, cela n'aura pas de conséquences, mais pour d'autres, cela pourrait faire tomber toute la procédure. Écoutez ce qu'en dit la présidente d'Anticorps, Élise Van Beneden.
On a des procédures dans lesquelles on s'était déjà constitué partie civile, c'est-à-dire qu'on avait déjà saisi un juge d'instruction, qui ne sont pas en danger, c'est-à-dire qu'elles vont pas être annulées. On a des procédures dans lesquelles on s'est constitué partie civile plus tard, à partir d'avril 2021, où là, il y a deux cas de figure. Soit le procureur nous a suivis. Dans ce cas-là, l'existence de la procédure, a priori, n'est pas en danger. Mais lorsque le procureur n'a pas voulu déposer de réquisition, là, l'instruction va tomber. Il y a des affaires entières qui peuvent intégralement disparaître.
Par exemple ?
Eh bien, ça peut être le cas de beaucoup d'affaires locales, notamment, car Anticorps a plusieurs procédures en cours contre des maires ou des élus locaux. Mais le dossier Alstom, une affaire de corruption, pourrait aussi être menacé. En revanche, l'affaire Kohler, elle, devrait suivre son cours.
Alexis Kohler, donc le secrétaire général de l'Élysée. Hein, bon, à suivre. Maintenant, ce qu'il faut aussi préciser, Maxime, c'est que ce qui est arrivé à Anticorps, c'est déjà arrivé à d'autres.
Oui, c'est aussi arrivé à une autre ONG qui s'appelle Sherpa, qui lutte également contre la corruption, mais plus sur l'angle international. Sherpa avait, elle aussi, perdu sa capacité d'agir en 2018, comme nous le raconte Pauline Delmas, qui est chargée de contentieux et de plaidoyer à Sherpa.
Sherpa s'est retrouvé sans agrément, notamment du fait des délais extrêmement longs. Et on a un peu l'impression d'être confronté à une administration qui joue la montre sur ces questions-là. Et ça a entraîné une contestation, notamment dans un dossier, qui est le dossier du financement libyen de Sarkozy. Quand vous êtes partie civile, vous avez accès au dossier. Et là, dans la situation où on s'est retrouvé, on n'avait plus l'agrément qui nous donnait le droit d'être partie civile. Donc il y a eu une contestation qui n'a finalement pas abouti, mais ça nous a causé des ennuis sur ce plan-là.
Et je précise que Sherpa a finalement retrouvé son agrément, donc tout n'est pas perdu pour Anticor. Mais cela fait dire aux trois principales associations anticorruption, Anticor, Sherpa et Transparency, qu'il faudrait une réforme de l'agrément.
Et une réforme qui changerait quoi ?
Eh bien, ces associations demandent à ce que la durée de cet agrément soit plus longue. Aujourd'hui, c'est 3 ans. Et puis, elles souhaitent aussi que la décision de l'accorder ou non soit confiée soit un juge, soit une autorité indépendante, mais plus au pouvoir politique.
Et ce sera le mot de la fin, Maxime Tellier, merci. Alors je précise que ni Jean Castex, donc ni Elisabeth Borne, deux acteurs qui étaient aux commandes dans des moments clés de cette affaire, n'ont souhaité s'exprimer, on le regrette d'ailleurs, parce que ça nous aurait sans doute permis de comprendre un peu mieux ce qui s'est passé en coulisses. Voilà en tout cas pour Anticor, mais surtout restez avec nous, Secret d'Info, ça continue. Qui est Joe Dispenza, l'homme qui prétend guérir les cancer et faire marcher les paralytiques? Réponse dans quelques instants. Un titre à la fois mélancolique et psychédélique, ça s'appelle Capricorne et c'est extrait du prochain album du groupe américain Les Vampire Weekend qui sortira le 5 avril prochain. Un album particulièrement attendu d'ailleurs puisque le dernier datait de 2019.
France Inter, Secret d'Info, Jacques Monin.
Et nous recevons maintenant Étienne Jacob, bonjour.
Bonjour.
La semaine prochaine, vous publiez La France des gourous, un livre-enquête qui raconte votre infiltration dans différents mouvements sectaires qui sont présents en France, des mouvements plus actifs qu'avant, dites-vous, surtout pour ceux qui se trouvent à l'état gazeux. Est-ce qu'il y a vraiment une recrudescence de ces micro-communautés ?
Oui, tout à fait. On a une explosion des signalements auprès de la Miviludes, qui est la mission gouvernementale de surveillance des sectes. Donc effectivement, on a clairement un phénomène à l'état gazeux.
Et quand gazeux, je dis, ça veut dire
gazeux, c'est
mouvement,
c'est qu'on ne le voit pas. Et il se disperse, il s'étend et il passe sous les radars des autorités.
Alors on va commencer par les mouvements, j'allais dire, connus. Alors la scientologie par exemple, vous dites qu'elle était relativement en retrait ces dernières années dans notre pays, mais vous évoquez une stratégie de reconquête en vue des Jeux Olympiques, donc les Jeux Olympiques qui arrivent là, c'est-à-dire ?
Oui, tout à fait. On a un bâtiment qui est en train d'être construit aux abords du Stade de France. Donc l'objectif, c'est d'aller proposer autour du Stade de France des massages, des conférences. Évidemment, on ne dit pas « bonjour, nous sommes l'église de Scientologie, venez nous voir ». C'est des portes d'entrée que j'ai pu observer dans mon infiltration au sein de l'église de Scientologie par des conférences sur le mental, comment mieux parler en public, des sujets apparemment anodins.
Des choses très tendances, mais qui peuvent effectivement attirer des
totalement.
Gens. Alors vous avez testé ça, justement, vous êtes présenté comme un adepte de base intéressé par ces discours. Et la première étape, c'est qu'on vous fait un test de personnalité.
Oui, il y a un quiz de personnalité, c'est 150 questions, c'est assez long à faire. Et en ressort des résultats, selon différents critères, sur votre niveau de sociabilité, votre niveau d'agressivité. Et pour ma part, j'étais au plus bas. Donc j'allais devoir suivre un long processus pour aller mieux. Et effectivement, l'Église de Scientologie dit que grâce à leurs séances de dianétique, de self-analyse, qui sont toutes leurs méthodes pour vous faire aller mieux, entre guillemets, vous allez pouvoir vous soigner.
Mais on peut penser que tout le monde échoue à ce test, finalement. L'objectif, c'est de vous convaincre que vous avez besoin de cette dianétique.
Ce test n'a rien de scientifique. Il a des questions qui sont souvent un peu provocatrices. Avez-vous tendance à vous énerver contre les gens ? Des questions qu'on va reposer une ou deux fois sous une autre forme. Donc on sent forcément que le quiz est très orienté.
La science, dites-vous, ravive des souvenirs douloureux, c'est-à-dire que vous-même, alors qu'a priori vous êtes structuré comme beaucoup de gens, vous souffrez de ce qui se passe.
Tout à fait. Vous êtes face à quelqu'un qui vous demande de vous rappeler votre dernier souvenir douloureux, avec de plus en plus de détails, parce que quand vous êtes arrivé au bout de votre discours, de votre souvenir, on vous demande d'aller au début et de raconter les détails que vous avez oubliés. Et on a tendance à ajouter de plus en plus de détails et des détails de plus en plus pessimistes. Pour ma part, j'étais triste de ce dernier souvenir et à la fin de l'entretien, j'ai terminé comme j'ai une envie de me jeter du quatrième étage. Donc c'est vrai que pour moi, ça induit potentiellement des faux souvenirs. C'est-à-dire que ça nous incite à broder autour de ça et peut-être à en dire trop par rapport à la réalité. Donc on sort de cette séance-là pire qu'on ne l'est au début.
Alors il y a d'autres mouvements que vous avez infiltrés, dont un qui est beaucoup moins connu et qui pourtant est aussi en croissance. Racontez-nous qui est ce chiropracteur Joe Dispenza que vous allez rencontrer au Grand Rex à Paris, c'est-à-dire dans une salle à laquelle n'importe qui a accès.
Totalement, c'était un événement ouvert au public et Joe Dispenza est un Américain qui a un certain charisme et il va vous dire lors de ses conférences que grâce à des séances de méditation, grâce aux retraites qu'il organise, des retraites d'une semaine aux États-Unis, un peu partout dans le monde, vous allez pouvoir soigner votre cancer et soigner n'importe quelle maladie. Et j'ai pu voir des personnes qui étaient en fauteuil roulant et qui espéraient pouvoir remarcher lors de ce stage. Elles attendent le miracle.
Ce qui n'a pas été le cas.
Non, j'ai pas observé de miracle. Mais en revanche, cette personne, ce Joe Dispenza, a un certain charisme et quand on le voit passer dans les travées du Grand Rex, effectivement, c'est saisissant même pour quelqu'un qui a les garde-fous du monde des dérives sectaires comme moi. Donc imaginez quelqu'un qui le découvre pour la première fois, il peut être saisi. Et tout le monde avait l'air conquis dans ce public, il y avait plusieurs milliers de personnes.
Ouais, vous parlez du cancer, mais vous expliquez qu'il dit aussi avoir guéri une sclérose en plaques après 10 jours de stage. Il a fait marcher des handicapés.
Mais c'est son discours, c'est parler des expériences et pas des preuves.
Et là encore, rien n'est gratuit, puisque ça coûte quand même 800 € les 3 jours auxquels vous avez participé.
Ah oui, tout à fait.
Parce qu'il y a toujours ça derrière, il y a toujours l'argent.
Ah mais l'argent est toujours un facteur, parce que c'est un business. Il y a une fondation derrière, ils commencent d'ailleurs à former des chiropracteurs en France qui vont pouvoir eux-mêmes faire leur propre business. Il faut savoir que Joe Dispenza et son équipe disent avoir travaillé dans des entreprises comme Coca-Cola, comme Sony.
Google.
Comme Google, je les ai contactés, tous ne m'ont pas répondu, mais ceux qui m'ont répondu m'ont dit n'avoir jamais travaillé avec lui, donc on serait sur de la publicité mensongère.
Beaucoup de ces mouvements prospèrent en fait sur une promesse de guérison. Et vous avez notamment infiltré aussi le mouvement d'Irène Grosjean, qui elle, alors c'est le manger cru, si on mange cuit, on mange mort, c'est ce qu'on explique dans ce mouvement. Mais elle organise aussi des stages dans les Hautes-Alpes. Et vous avez donc mangé cru pendant combien de temps ?
J'ai mangé cru pendant une semaine.
Et alors ?
Déjà, la première chose, c'est que ça vous affaiblit. Donc, vous avez tendance peut-être à absorber plus facilement les enseignements qu'on va vous faire. Et les enseignements qu'on vous fait, c'est une hostilité claire envers la médecine conventionnelle au profit de sa méthode qui est vous mangez cru, vous vous purgez régulièrement et vous vous soignez quand il le faut avec des plantes.
Vous parlez des purges à l'huile de ricin, ça n'a pas l'air triste ça.
Non, c'est pas triste du tout. Des personnes ont été malades à l'issue de cette purge-là. Elles ont été laissées sans surveillance, parfois dans leur chambre à être malades et à rester sur le cabinet des toilettes pendant toute une journée ou deux. Et on leur conseillait, après avoir été malades, de refaire une deuxième purge. Parce que ça veut dire que les cols qu'on a de l'organisme qui ont été formés par cette nourriture cuite qui est le diable pour Irène Grosjean, doit être purgée au plus vite pour pouvoir se soigner, pour pouvoir guérir. Et dans ce stage, énormément de personnes qui espéraient soigner leur maladie, qui avaient des maladies chroniques, donc ça pose question.
Ce qui est intéressant dans votre récit, c'est finalement ce que disent les gens, ou c'est le discours officieux, pas le discours officiel. Officiellement, on ne fait pas de médecine et on ne fait pas d'exercice illégal de la médecine. Mais dans les faits, ce que vous entendez, vous, c'est en gros, on bourre les gens de médicaments, ce que vous disiez. C'est ça qui provoque le cancer. La chimiothérapie, ça tue, alors que les crudités sauvent. Et les patelleries sont dangereux. Et alors, vous racontez quelque chose, c'est qu'on vous explique que c'est pour ça que les Asiatiques qui mangent beaucoup de riz sont plus dociles que les autres peuples.
Oui, on avait des cours de cuisine, qui étaient des cours de cuisine crue, par un certain Jean-Charles Fraschina, qui fait partie de l'équipe d'Irène Grosjean. Et ce monsieur, sous couvert de nous parler de cette cuisine et nous transmettre des bonnes recettes, avait ce discours extrêmement hostile envers la société et parfois qui pouvait virer dans des folies et effectivement que les Asiatiques mangeaient beaucoup de riz, alors c'est pour ça qu'ils étaient plutôt malvoyants. Un discours qui le décrédibilise totalement et évidemment avec aucune preuve à chaque fois.
Bien, merci Étienne Jacob. Alors il y a beaucoup d'autres choses dans votre livre et pour ceux qui voudraient aller plus loin, je rappelle donc qu'il s'intitule « La France des gourous » et je précise qu'il paraîtra aux éditions du Rocher mercredi prochain donc. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Mélissa Fouste et réalisée par Christophe Imbert. C'est Jean-Baptiste Audibert qui a choisi la musique et à la technique, il y avait Clément Vuillet et Ludovic Asselot. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.